Père Joseph Prévost, bonsoir, merci d'être avec nous une nouvelle fois sur les ondes de Radio Maria.
Bonsoir Olivier, bonsoir à mes chers auditeurs et chères auditrices. Et nous allons tout de suite ouvrir notre cœur à l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous éclairer et nous transformer de plus en plus, de manière à ce que nous soyons tous des témoins, ou comme je l'ai annoncé, puisque le titre c'est « La co-rédemption est l'œuvre de chaque famille », pour que nous soyons tous eh bien, de véritables co-rédempteurs. Eh bien, fermez les yeux et que l'Esprit Saint, voilà, m'éclaire et vous éclaire. Amen. Alors, c'est un sujet important, la co-rédemption, parce que, en quelque sorte, j'allais dire, c'est le but central pour nous tous. Le but, c'est d'être sauvé, mais nous y participons. Alors, ce qui est important, c'est d'abord de comprendre, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans l'Église, et j'ai entendu parfois, manifestement, même des consacrés, ignorer le mystère de la co-rédemption, ou dire, non, non, la co-rédemption, il n'y a que Jésus qui sauve. Alors, c'est ne pas comprendre ce qu'est la rédemption déjà, parce qu'il y a déjà une erreur. Alors, on va voir tout ça, mais je voudrais d'abord citer Saint Paul, parce que là, on ne l'a pas aussi très bien interprété, mais il parle directement de la co-rédemption. Alors, c'est dans Colossiens 1, 24. Ce mystère, je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous. J'achève dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ. C'est Colossiens 1, 24. Alors, prudence, parce qu'il y a eu tellement de fausses rédemptions. Si vous voulez, ça a donné le jansénisme. Et ça a donné des réactions qui ont été vraiment condamnées par l'Église. Mais on est resté très, très influencé. C'est-à-dire, et encore aujourd'hui, peut-être pas de la même manière au niveau de la croix, parce que une certaine forme de psychologie, si vous voulez, a vidé le sens vraiment de la croix. Mais il reste aujourd'hui l'activisme qui est très fort. C'est peut-être la plaie actuelle dans beaucoup de paroisses, parce que finalement, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et c'est en fonction du travail que nous serons sauvés. Alors, je reviens maintenant à l'attitude de Saint Paul. Lui, il est au niveau de la souffrance. Je me réjouis des souffrances. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand il dit que je me réjouis maintenant des souffrances, eh ben, alors il ne se réjouit pas de la souffrance en elle-même. Non, non, Saint Paul n'est pas masochiste. C'est pas ça qu'il veut dire. Ça a été parfois interprété de cette manière-là. Non. Ça montre tout simplement qu'il est unifié. C'est vraiment un saint. Quand le propre de la rédemption, de vivre de la rédemption, c'est être unifié. C'est-à-dire, donc là c'est le cas de Saint Paul, mais unifié comment? Dans l'amour. Alors le propre de l'amour, c'est pas faire le tri comme les païens, ah ben voilà, moi j'ai ma petite vie, ou ma petite vie chrétienne, et j'aide, etc. Et puis tout ce qui est, on fait un peu le tri, et on rejette tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui nous... Alors que, parce que ça ne nous donne pas de la joie, on ne sait pas le vivre, alors on le vit, si vous voulez, dans le sens d'un sacrifice par rapport à soi, mais on reste toujours centré sur soi. C'est là le problème. Non, il y a donc, il faut comprendre que le salut, c'est vraiment un mystère d'amour. C'est un mystère de joie. Vous voyez, quand le Christ, évidemment, ça n'a pas été très bien perçu tout de suite par les apôtres, parce qu'il faisait cette division, et il faisait même de Jésus quelqu'un qui allait chasser les Romains, rétablir d'une manière temporelle le royaume. Non, le royaume que Dieu veut inscrire et que nous avons perdu, il veut le rétablir. Mais fondamentalement, c'est cette unité avec Dieu qui a été rompue et qui se vit en nous. C'est-à-dire que nous vivons de cette rupture en nous. Alors évidemment, c'est rare. Quand on voit quelqu'un qui arrive à être unifié et à rester dans la joie dans tout ce qu'il fait, eh bien, c'est-à-dire qu'il vit quelque chose de plus fondamental et il est dans la joie. Alors ça, il faut le comprendre. Petit à petit. Mais pour ça, je vais vous ramener aussi à Jésus. Parce qu'il est notre premier éducateur par rapport au salut. Mais le Christ, dans tout ce qu'il a fait, partout, il a essayé de ramener les gens à ce mystère du salut. C'est-à-dire à rentrer à nouveau dans leur alliance. Mais Jésus, voyez bien que Jésus n'est pas venu. Et vous avez vu, il les enseigne, il a enseigné ses apôtres, il a pris du temps, de manière à ce que eux-mêmes puissent participer au mystère du salut. Et il les a appelés, et nous sommes tous appelés par le Christ d'une manière différente. Et nous recevons tous des dons, des charismes très différents, de manière à nous donner. Alors, mais le premier, effectivement, le premier lieu où nous sommes, eh bien, conduits au mystère de la co-rédemption, c'est par rapport au sacrement du mariage. Le sacrement du mariage, c'est pas se marier pour soi, mais c'est vraiment pour entrer dans le mystère du salut, de l'amour. Donc, ce qu'on dans même la liturgie, il est dit par, je crois que c'est la femme qui commence, je me donne à toi et je te reçois, pour le meilleur comme pour le pire. Vous voyez, dans le pire, il y a encore, vous allez me dire, il y a encore la notion de souffrance. Mais oui, on ne sélectionne pas. C'est ça l'amour. C'est en fait se donner et accueillir l'autre. Mais se donner. Donc, et puis l'homme va répondre, je me donne à toi et je te reçois comme épouse. Et donc ça, c'est vraiment central et c'est important parce que à travers, dans ce don, ils se reçoivent l'un et l'autre. Mais vous voyez que normalement le prêtre, il va venir et il va imposer les mains pour eh bien, les bénir et pour vraiment qu'ils puissent prendre conscience et qu'ils puissent comme être réactués par l'Esprit Saint pour être animés, pour entrer dans ce mouvement l'amour. Donc vous voyez bien, dès qu'il commence à rentrer vraiment dans la liturgie du mariage, ils sont à la fois insérés en Dieu en le recevant par l'Esprit Saint et en étant incorporés au Christ. C'est pour ça que quand il n'y a pas de messe, j'allais dire, on est pratiquement, je dis pas que le mariage est nul, mais on a affaire, c'est quand on a affaire à des chrétiens, on leur fait une belle cérémonie et ils comprennent pas que on est dans un mystère de rédemption et de co-rédemption. Donc on accueille vraiment toute la Trinité. Et sans accueillir ni l'Esprit Saint, ni le Christ, ni le Père, nous n'accueillons pas la Trinité, et n'accueillons pas le salut, nous ne sommes pas en mesure de vivre une communion. Alors ça, c'est important. Ce qui fait que dans la liturgie, le prêtre, Alors chacun s'y prend un petit peu différemment, mais le mieux, c'est de les inviter à l'autel, et au moment où le prêtre lui-même, eh bien, prend l'hostie et l'eucharistie, ils vont se donner aussi, ils vont partager ce pain et ce vin, et ils vont se donner mutuellement le calice. Vous voyez, ils se donnent le Christ, et le premier à se donner, c'est le Christ pour cette communion. Donc c'est à travers, c'est dans la mesure où eux-mêmes, ils accueillent le Christ, qu'ils sont en capacité, eh bien, de vivre vraiment de cette communion. Mais ils ne sont pas en capacité par eux-mêmes de se donner cette grâce. C'est un don. Parce que le don, la communion, le don du sacrement du mariage, c'est vraiment rentrer dans cette joie profonde et vivre en Dieu. Donc le premier concerné, effectivement, c'est d'abord la personne. C'est recevoir vraiment le Christ. Recevoir l'Esprit Saint. Recevoir le Père. Pour être unifié. Donc en les recevant, je reçois leur amour. C'est leur amour qui me sauve. Mais je participe. C'est-à-dire que c'est un mystère de communion. Ils se donnent à moi. Vous voyez ce que c'est que l'Eucharistie. Et je me donne à eux. Il y a un échange, mais c'est une participation. Et tout comme le Christ, vous voyez, se donne entièrement à moi, je me donne à la fois au Christ, et forcément par le Christ, enfin c'est pas évident, c'est toute une éducation, mais je me donne aussi aux autres. Au niveau, quand c'est au niveau du couple, ce sacrement que je vis, à la fois je le reçois et j'en vis pour l'autre, pour établir la communion à l'autre. Et établir la communion à l'autre, j'établis l'autre en Dieu. C'est-à-dire que je suis obligé de m'ajuster à l'autre de manière à donner à l'autre tout l'amour je veux dire, dont il est capable de recevoir. Mais je le fais, je ne peux pas me donner cet amour à moi-même. Vous voyez, le Christ lui dit lui-même, il est mauvais que l'homme soit seul, je vais lui donner une aide. Ça veut dire que c'est chacun qui est tourné vers l'autre. Et c'est en me donnant à l'autre que je rentre dans le mystère de la rédemption. C'est-à-dire que j'interviens hein, aussi pour l'autre. J'accueille l'autre. Donc le mystère de la rédemption est lié au mystère de la co-rédemption. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va me sauver. C'est quelqu'un qui rentre en moi, que j'accueille. Et à mon tour, je vais eh bien, moi-même, me donner à l'autre, accueillir l'autre, et c'est réciproque. Donc il y a un mouvement circulaire comme dans la Trinité qui s'établit ce sacrement du mariage. Mais bon, il s'établit aussi pour le prêtre. Mais le prêtre, il va le vivre par rapport aux personnes, mais il va accueillir la grâce et il va la redonner. Mais c'est à travers, en dominant le Christ, il est, j'allais dire, lié directement, voyez, à cette communion. Il participe à cette communion. Maintenant, le couple lui-même, ben, c'est important de comprendre que le couple a une mission. S'il a une mission, comme chacun d'entre nous, le couple participe vraiment à cette rédemption. C'est ça que ça signifie. Donc le but, je vais vous redonner ce que dit précisément Jean-Paul II en famille Iaris Consortio. Il y a quatre responsabilités très importantes qui sont données à chaque couple. La première, eh bien, chaque couple est responsable de l'autre. C'est-à-dire qu'il doit être responsable dans la mesure, alors c'est intérieur, hein, dans la mesure où il doit rétablir la communion en Dieu. Puisque cette communion se réalise en fait au niveau de l'âme, et l'homme n'a pas la capacité par lui-même. Hein, nous ne sommes pas source de notre âme. Deuxième mission importante pour la famille, eh bien, c'est de permettre à que chaque enfant puisse vraiment s'ouvrir à Dieu, à l'amour de Dieu. Alors, ça se fait graduellement, ça se fait dans le temps, mais ça fait partie de cette mission, vous voyez, co-rédemptrice. C'est-à-dire qu'il est, premièrement responsable de ses enfants pour qu'ils rentrent dans l'amour de Dieu, dans cet amour. Et c'est ça le salut, c'est ça la vie éternelle, c'est être en Dieu. Et c'est comme cela, vous voyez, qu'on commence sur terre à vivre vraiment le mystère de la rédemption. La troisième mission, eh bien, c'est permettre, bon, déjà de manière personnelle, mais ensuite au niveau du couple, permettre que chacun puisse rentrer dans son identité de fils ou de fille de Dieu. C'est la troisième mission. Il faut veiller. La quatrième mission, c'est que chacun puisse former une communauté qui sauve. C'est-à-dire que chacun est préoccupé de l'autre, du salut de l'autre. Alors, ça ne se réalise pas à la manière de « il faut que je fasse », mais ça se réalise par le ton, vous voyez, de soi. On appelle ça, donc, au niveau du couple, le don sponsal. C'est-à-dire que chacun est vraiment tourné vers l'autre et en accueillant Dieu. Alors, je voudrais, voyez, vous montrer que c'est réaliser cette co-rédemption se réalise aussi par toute une intention en nous. Ça se rapproche, si vous voulez, en quelque sorte, de ce que dit saint François. Là où il y a la haine, je mets l'amour. Donc c'est une manière, voyez, d'être comblé par le Christ et de, accueillant le Christ, de combler tous ceux qui nous entourent par cette vie intérieure, par cette vie de l'Esprit-Saint. Donc, c'est une manière aussi de repérer, si vous voulez, si on est vraiment rentré, si on commence à rentrer dans ce mystère de la co-rédemption. Vous voyez, quand j'ai des peurs en moi, eh bien, je me replonge en Dieu et j'accueille la confiance. Et quand je vois la peur autour de moi, j'établis la confiance. Quand j'ai des doutes, eh bien, j'accueille en moi la foi et je donne cette foi, je transmets cette foi autour de moi. Quand il y a de l'orgueil, eh bien, j'accueille cette humilité et je mets, si vous voulez, cette attitude d'humilité autour de moi. Quand j'ai des attitudes d'intérêt par rapport à moi, eh bien, j'accueille tout dans une forme de gratuité. Quand je ne regarde que moi, ce qui peut toujours arriver, quand nous sommes centrés sur soi, eh bien, j'apprends à rendre grâce à Dieu. Quand je suis indifférent aux autres, je m'engage au salut pour les autres. Alors, c'est toute une attitude intérieure éducative. Et pour ça, il faut revenir à vraiment ce qu'il y a de plus intérieur. Et il faut revenir au même, si vous voulez, mode de notre réalité en tant qu'être créé par Dieu. Alors, je vais faire le parallèle. Et au moment de la création, il était dit, Dieu prend de la matière et Dieu, alors il a, comme un potier, il transforme la matière, il la modèle et il crée la matière à son image. Et après, il insuffle. C'est vraiment l'Esprit Saint. Donc il y a vraiment, l'homme devient vivant, mais de ce souffle qu'il a reçu directement de Dieu. C'est-à-dire qu'il reçoit d'une manière naturelle l'Esprit Saint. Alors je fais le parallèle maintenant parce que c'est important. Par rapport à nous-mêmes. Parce que Dieu, quand il intervient, il va intervenir à la fois, si vous voulez, pour Adam et Ève, et en même temps, il va intervenir, il est intervenu pour nous, et si vous allez concevoir un enfant, il va intervenir, lui, il intervient en un seul instant. Mais ça peut être en un seul instant, il n'y a pas... On n'est pas dans la continuité du temps avec Dieu. Ce qui veut dire que la matière pour la matière, bon, on utilise le mot matière pour Adam, mais la matière, c'est aussi fait de cellules. Vous voyez, l'être humain, il y a l'ovule et la spermatozoïde qui vont former une seule cellule. Et cette cellule, il y aura comme une fusion, et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, où cette cellule a son propre numéro, son propre caractère, hein, on sait déjà, elle va mourir à 75 ans, elle aura ça, elle aura ça, elle aura les yeux bleus, elle fera 1m80, etc., etc. Tout est déterminé, et son autonomie, c'est-à-dire que l'âme spirituelle, au même moment, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a une communion qui se fait, une union. Là, c'est un peu... Là, c'est le seul moment où on peut parler vraiment de fusion entre les cellules mâles et femelles pour qu'il y ait une seule, vraiment, personne unifiée. Et l'Esprit Saint, c'est pour ça que c'est une personne dès ce moment-là. Alors, c'est pas si anodin que ça, parce que quand Dieu crée, on en a tous, donc quand vous étiez vraiment zygote, c'est-à-dire une seule cellule, hein, vous étiez encore dans la trompe, on était tous dans la trompe de maman. hein, dans le premier tiers. Eh bien, Dieu, dans toute sa création, et là, il a créé directement pour l'âme, nous avons tous une expérience de cet instant. Voilà, alors ce qui est, j'en étais au premier moment de notre vie pour montrer cette importance et le lien avec l'esprit, le Saint-Esprit, même si c'est d'une manière naturelle, parce que nous sommes profondément marqués par cette action de Dieu. Parce que Dieu, il n'y a pas de différence entre son amour et son être. Et quand il crée, donc il crée forcément dans l'amour. Ce qui veut dire que nous avons tous cette mémoire très profonde au niveau de l'âme, de l'amour de Dieu. C'est important. Ce qui veut dire que pour chacun d'entre nous, nous sommes marqués par l'amour de Dieu qui demeure en nous. Et pendant 9 mois, si en plus la maman est dans la foi, il va y avoir, comme si vous voulez, une extension de cette conscience d'amour en nous. Alors, pourquoi? Mais parce que notre âme est présente. Notre âme, elle est spirituelle. Et à la source de cette âme, il y a l'Esprit Saint. Alors, cette attitude, cet Esprit Saint, ce qu'on va après, petit à petit, découvrir, ou ce qui peut se passer, c'est malheureusement aussi ce qui nous habite. C'est qu'en même temps que cette grande grâce, cette conscience d'amour, nous avons aussi en nous ce que nous appelons, on peut les appeler les concupiscences. C'est, si vous voulez, le pouvoir de la chair. Saint Paul parle de chair opposée à l'esprit. Voyez, donc il y a ces deux aspects et il y a comme une dualité en nous. C'est pour ça qu'il y a, Jésus vient rétablir en nous. Alors il laisse ses conséquences du péché, mais Dieu vient rejoindre et nous avons donc mission de rétablir en nous. Alors il y a deux attitudes, mais le propre du péché qui est en nous, qui fait qu'on aura tendance, si vous voulez, la concupiscence des biens, la concupiscence des yeux, et puis la concupiscence de la chair, hein, qui en fait touche notre âme, notre intelligence, et notre volonté, et tout ça qui s'inscrit dans notre corps, dans notre sexualité. Donc on aura toujours une tendance à vouloir résoudre les problèmes parce que nous sommes coupés, les conséquences du péché qui demeure en nous, parce que nous sommes coupés en nous. Donc le mal qui peut, en quelque sorte, par les concupiscences, nous attirer vers le bas, nous diminuer en nous nos capacités à faire le bien pour aller dans l'immédiat, ou alors nous centrer sur nous, font que nous ne nous recevons plus de Dieu. Et nous essayons plus, vous voyez, de rentrer dans ce mystère du salut, de la rédemption, qui est cette alliance. Nous ne rentrons pas nous-mêmes dans le mystère de la rédemption, mais au contraire, on va se couper. Et finalement, on va faire des fausses images de Dieu. Faire des fausses images de Dieu, c'est tout simplement se séparer de Dieu et faire tout par soi. Et je me satisfais à moi-même. Je fais mon propre bonheur. Je cherche ma propre jouissance. Alors que rentrer dans le mystère de la corrélation, c'est à la fois, eh bien, je m'appuie justement sur l'esprit, mais avec cette grâce qui nous est donnée, qui est une plénitude de l'Esprit Saint, vous voyez, qui nous est donnée pour nous permettre, alors certes, il y aura toujours ce combat, mais qui nous permette de coopérer vraiment au mystère de l'Alliance, au mystère du salut, au mystère de la rédemption, c'est-à-dire que nous rentrons totalement par nous-mêmes dans l'amour, sans chercher à moi-même mon bonheur, mais en accueillant ce bonheur qui est vraiment intérieur. Et que je vais essayer de communiquer à l'autre en m'appuyant d'une manière très concrète sur l'Esprit-Saint. Alors, le premier lieu qui est donné, c'est le premier lieu qui nous apparaît comme un modèle, et ben ça s'est réalisé, alors on le connaît par rapport à la Vierge Marie, mais ça s'est réalisé en fait en Marie et Joseph. C'est-à-dire que l'un et l'autre, Marie et Joseph, sont devenus participants au mystère de la rédemption. Comment? Et ben en accueillant Jésus dans leur propre vie. Alors eux, ils l'ont vécu évidemment d'une manière parfaite, mais ce qu'ils ont vécu, nous sommes amenés, voyez, à rentrer nous aussi dans ce même mystère de la corrélation, en accueillant dans notre propre vie, Jésus qui est comme au centre, que nous accueillons. Et Marie et Joseph vont nous aider, nous éduquer, pour que nous puissions nous-mêmes être participants et nous aussi engendrer vraiment ce mystère d'amour en accueillant Dieu lui-même, sans s'appuyer sur nous, mais en s'appuyant sur lui, ce qui nous donne cette liberté. Et tout se réalise, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, au niveau de l'âme profonde, de notre âme profonde. De là, on ressent, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait cette prière qui ressemblait à Saint François, parce que petit à petit, nous allons nous unifier et réaliser toute notre vie dans cette continuité à l'Esprit-Saint, mais très intime, dans une écoute. Et ce qui va favoriser cela aussi, bien sûr, c'est des moments comme deux moments, moi je vais dire privilégiés, qui sont comme des sommets avec l'Eucharistie, c'est l'oraison et aussi le chapelet. Ce sont deux lieux, voyez, où l'Esprit Saint se donne, se communique à nous. Mais toujours, l'Esprit Saint agit dans cette communion, avec cette participation de toute l'Église, avec, vous voyez, ça vous le comprenez, hein, l'Église est corédemptrice, elle communique les sacrements. Et bien nous, nous communiquons en recevant les sacrements, nous en vivons et nous communiquons autour de nous. Nous communiquons le fruit de nos sacrements. Donc c'est une participation. Voilà. Alors là, co-rédemption fait partie, voyez, de la mission auquel nous devons nous-mêmes participer et faire rentrer nos enfants. Alors, en éduquant, alors, on ne va pas parler du mot co-rédemption avec les enfants, mais en parlant vraiment d'accueillir dans nos vies ce feu de l'amour et de le répandre. C'est ce que la petite Thérèse avait compris. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Voilà. Et ben, je vais maintenant vous bénir et vous donner rendez-vous, voilà, dans un mois. La prochaine fois, je vous parlerai du secret du sacrement du mariage, ensuite des secrets de la dimension sexuelle, et comment enfin la sainteté des familles se réalise par le cœur. Et donc, à vous tous, je vous donne rendez-vous pour le mois prochain, 4 semaines, et que par la Sainte Famille, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était notre émission La Grâce de Nazareth avec le Père Joseph Prévost. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.